Je vais en deux minutes dire pourquoi et comment on est venu à présenter ici, dans une conférence, cette abbaye de Beaulieu, son histoire, ses projets, alors qu'il n'y a pas un Saint-Antoninois qui ne soit déjà allé voir cette abbaye, qui ne la connaisse bien, qui en connaisse sans doute beaucoup de morceaux de son histoire. Il y a eu une circonstance, je dirais peut-être la disparition de Geneviève Bonnefoy, mais avant cela même, le fait que le Centre des Monuments Nationaux, qui est propriétaire de l'abbaye, a entrepris de développer un grand projet, dont il va être question tout à l'heure, pour cette abbaye. Et quand nous avons appris cela ici, nous nous sommes dit, ce serait bien que nous trouvions une occasion de présenter au public de Saint-Antonin, qui est une partie tout de même du public des expositions de l'abbaye, ce que va devenir l'abbaye de Beaulieu. C'est ça l'origine, au fond, de cette conférence. J'ai appelé Benoît Grécourt, qui est ici, qui est l'administrateur, le nouvel administrateur nommé par le CMN à la tête de l'abbaye. Et avec lui, on est convenu qu'il y aurait une séance, sans doute, à l'été, pour présenter cette abbaye. Et les projets que le Centre des Monuments Nationaux va former à son sujet. Évidemment, en chemin, depuis que nous avons pensé à cela, nous avons rencontré d'autres chemin de traverse, ou peut-être donnée beaucoup plus fondamentale, je pense à l'histoire cistercienne de cette abbaye, et j'en ignorais pour ma part l'existence, mais depuis 2013, il existe une association qui s'intéresse à l'art cistercien du Rouergue, c'est l'association Cistercien en Rouergue, que représente ici Nicolas Revel, qui est son fondateur, et la troisième personne que vous avez devant vous, qui s'appelle Anaïs Fenn, travaille, elle, au Centre des Monuments Nationaux, mais sur l'histoire de l'architecture de l'abbaye, mais c'est elle qui racontera ensuite ce qu'elle a à nous dire. Pour ma part, à Saint-Antonin, je sais tous les liens que nous avons, chacun de nous en a, y compris des artistes de Saint-Antonin qui ont eu l'occasion d'avoir à l'abbaye des installations, on se souvient de celle de Jacques Aramburu. Il y a une histoire plus particulière que je voudrais juste mentionner avant de passer la parole aux orateurs, qui est l'histoire du 19e siècle, et c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans le programme ici. Au XIXe siècle, en vertu d'un legs de 1825, si je ne me trompe pas, la commune de Saint-Antonin est devenue propriétaire du domaine de l'abbaye de Beaulieu. Elle est restée pendant une cinquantaine d'années. Saint-Antonin était propriétaire de l'abbaye. Mais il faut imaginer ce qu'était l'abbaye à ce moment-là. C'était une ferme, une forêt, pas vraiment quelque chose qu'on pouvait visiter. L'église de l'abbaye était assez en ruine, mais quand même encore debout. Et c'est Viollet-le-Duc qui l'a découverte ou qui a apprécié l'intérêt de cette abbaye au moment où, à Saint-Antonin, on cherchait à reconstruire une église digne de ce nom. Il n'y avait pas l'église qui est ici maintenant. Je ne sais pas si elle est digne de ce nom, mais en tout cas, on a pensé, et lui le premier, que ce serait intéressant de reconstruire à Saint-Antonin une église catholique. Je passe sur le fond de l'histoire des guerres de religion, qui pourrait être empruntée à ce magnifique bâtiment qui était encore à peu près debout de l'église de l'abbaye. Et il y a eu pendant 40 ans, mais vous allez en parler, un débat qui a concerné le ministère de l'Éducation nationale, qui gérait à ce moment-là les procédures intéressant les monuments historiques. C'était les débuts de la politique des monuments historiques avec Mérimée et Viollet-le-Duc. Et ils ont pensé vraiment à faire un projet de translation, c'est comme ça que ça s'appelait, de cette église de l'abbaye à Saint-Antonin. Et l'endroit qui était prévu pour cela était Place des Tilleuls, qui ne s'appelait pas encore ainsi. Finalement, c'est l'école Perret qui s'est construite là. Mais voilà. Donc il y a un projet très intéressant. Et pendant 50 ans, on a considéré sérieusement, y compris les plus hautes autorités de l'État dans la région, que ce serait une bonne idée. Il faut imaginer ce qu'était l'abbaye à ce moment-là, ce qu'était Saint-Antonin aussi. Voilà. Je voulais signaler ce point qui va être repris tout à l'heure, parce qu'il a intéressé toujours notre association des Amis du Vieux Saint-Antonin, et en particulier Georges Julien. Vous savez tous ce qu'était Georges Julien. Ça a été le président de notre association pendant longtemps, et il a été l'âme, et il est encore l'âme de cette association, je dirais. Il a écrit un très long article d'une vingtaine de pages, dont j'ai tiré pour la conférence d'aujourd'hui une dizaine d'exemplaires. Ils ont déjà été un peu dispersés parmi vous, mais ceux qui ne l'auraient pas encore découvert peuvent le trouver dans l'édition de 1983 de notre bulletin, très facile à consulter sur le site internet. On peut même l'imprimer, ce que j'ai fait moi. Donc je vous y invite si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire et si, à l'issue de la conférence, vous avez encore le sentiment d'avoir des choses à apprendre. Voilà. Je m'arrête là et je passe la parole. Et je vais leur laisser le soin de dire dans quel ordre ils vont présenter leur conférence. Benoît Grécourt, c'est à vous d'abord.
Merci, Monsieur le Président, cher Thierry. Merci également à Catherine, Thomas et Nicolas des Cisterciens en Rouergue d'avoir participé à, et même plus que ça, contribué fortement à l'organisation de cette conférence. Je tiens à saluer ici Daniel Cadillac, le président de l'association culturelle de l'abbaye de Beaulieu. J'ai vu également monsieur le directeur des archives départementales du Tarn-et-Garonne qui nous aide énormément dans les recherches que nous effectuons et dont vous verrez quelques fruits lors de cette présentation. Mon prédécesseur également, cher Jean-Pierre Coll, et tous, vous tous ici, ici présents, merci d'être venus pour cette conférence lors de laquelle nous allons d'une part, donc c'est Nicolas et Anaïs qui vont vous parler de cet épisode que Thierry vient d'évoquer, ce projet de translation de l'église de Beaulieu vers Saint-Antonin. Et puis ensuite, à l'issue de cette première partie, je vous parlerai de Geneviève Bonnefoy et de Pierre Brache qui ont sauvé l'abbaye de la ruine, de la collection de Beaulieu qui vient d'être considérablement enrichie ces derniers temps après le décès de Geneviève Bonnefoy. Et puis je dévoilerai également l'amorce du projet de développement de l'abbaye de Beaulieu, projet phare du CMN, du Centre des Monuments Nationaux, pour les 3 années à venir. Hein. L'abbaye de Beaulieu fait partie des 3 des principaux monuments qui vont bénéficier dans les 3 années à venir de travaux d'aménagement considérables. Donc j'aurai le plaisir d'évoquer ces travaux et l'aménagement de l'abbaye et de la présentation de la future collection permanente. Voilà. Donc, ensuite, je pense qu'on pourra également répondre à vos différentes questions. Et donc, nous allons démarrer avec l'histoire plus ancienne de l'abbaye de Beaulieu. Merci.
Merci, Benoît. Alors, bonsoir à tous. Oui, c'est un grand plaisir pour Cistercien Rouergue d'être invité ici ce soir et d'être en mesure de faire une présentation conjointement avec le CMN, qui sont maintenant nos partenaires. Il y a 5 ans, nous avions déjà organisé une journée d'études à l'abbaye et qui couvrait différentes communications sur l'histoire de l'abbaye, de son architecture. Et il voit que il se trouve que 4 ans après, nous sommes en mesure maintenant d'envisager une coopération encore plus grande. Et donc, cette coopération, pour nous, est l'occasion de faire appel à de nombreuses aides. Et rien que pour cette communication ce soir, il faut que nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour que nous puissions le faire. Alors tout d'abord Thierry Leroy, qui nous a contactés et qui est donc l'initiateur de la soirée ce soir. Jérôme Cra, directeur des archives départementales du Tarn-et-Garonne, et Alain Venturini, directeur des archives de l'Aveyron, qui nous assurent de leur soutien dans les projets ces 2 prochaines années qui vont consister à créer une matière digne d'être montrée dans un musée. Donc on va vraiment essayer de créer, grâce à l'appui de ces deux institutions et de ces 2 personnes, essayer de trouver d'atteindre un niveau de qualité optimal. Alors, localement, nous avons eu l'occasion de retravailler avec Anne-Sophie Dufour, archiviste à Saint-Antonin, Madame Martinez aussi, qui nous a communiqué un document. Dominique Percher aussi, qui très gentiment nous a communiqué des sources et des documents. Au service de l'inventaire, Anaïs, toi tu étais en contact donc, de Sandrine Pradier, Sandrine Ruffly et Carole.
Carole Stadniki Leroyer.
Et donc vraiment qui sont vraiment disponibles pour nous aider. Et enfin, au sein de Cistercien Rouergue, on a constitué un petit groupe. Et Monique Muraté, Geneviève Moll et Alain Gilbert de l'association nous aident à lancer ce projet. Donc merci à toutes ces personnes-là. Et on aura besoin de vous et du plus grand public dans son ensemble. Parce que nous serons à la recherche toujours de documents d'archives. Donc voilà, mais vous avez en tout cas le nom de toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette soirée ce soir. Et aussi, nous ferons appel à elles, bien sûr, dans le futur, mais aussi au concours de tous les Saint-Antoninoises, parce que nous sommes toujours à la recherche de documents d'archives, même plus contemporains, Donc s'il se trouve que vous avez des photos ou des vidéos, des films un peu inédits où apparaît l'abbaye de Beaulieu, ou même des témoignages de personnes qui ont reconnu Geneviève Bonnefoy, Pierre Brache, tout ça, vraiment, ce sont des documents qui sont intéressants et qu'il mérite de les sortir des tiroirs et si vous le voulez bien, nous les communiquer pour voir si c'est possible de les exploiter. Voilà, donc nous ferons appel à vous. Alors dans notre méthode de travail, la Thierry Leroy l'a rappelé, nous avons surtout utilisé l'étude remarquable de Georges Julien, donc qui a fait un document tout à fait complet sur ce qui s'est passé pour l'église de l'abbaye de Beaulieu dans le 19e siècle. Ce document est accessible en ligne à travers le très bel outil du site internet donc, de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin. D'autres sources ont été, une autre source, Jean Donat, dans les Annales du Midi, la revue archéologique, aussi un très bon document qui est accessible en ligne. Une autre association très active, les Toulousains de Toulouse et les Amis du Vieux Toulouse. Là, nous avons un document tout à fait remarquable de Gratien Leblanc, qui, dans les années 30, aussi avait fait une très belle étude sur l'abbaye. Ce document accessible en ligne à travers le site internet donc de l'Association des Toulousains de Toulouse. Et plus récemment, nous avons utilisé aussi les travaux donc, de Dominique Percher, qui avait étudié donc, l'école Perret et donc son origine jusqu'à ces jours aussi. Donc voilà, donc la raison du sujet, la translation de l'abbaye ou l'abbaye de Beaulieu au 19e, coulée de source parce que son lien avec Saint-Antonin, bien évidemment. Et nous verrons, alors en remontant même au 13e siècle, qu'il y a d'autres liens entre Saint-Antonin et l'abbaye de Beaulieu. Notamment, il y a eu des dons de maisons et la vente des biens nationaux, l'achat que fait Joseph Perret de l'abbaye. Il est mentionné aussi un prêt à Saint-Antonin. Donc voilà, tout commence pour notre histoire à la Révolution. Et donc là, notre objectif va être de vous montrer des documents que vous n'avez peut-être pas vus, mais qui sont en tout cas très, très évocateurs. Là, vous êtes en face donc, d'une affiche, figurez-vous, une affiche d'annonce d'enchères publiques. Et cette affiche, alors si on pouvait montrer l'analyse plus précisément, cette affiche liste tous les biens qui vont être mis en vente et vous voyez le numéro 49 et listé les bâtiments, églises, cours et jardins, si vous pouvez avec montrer le numéro 49. Voilà, c'est ça. Nous sommes ici, près à Pelé-du-Pont, joignant le dit jardin. Donc ça, c'est l'ensemble du parcellaire qui est vraiment autour de l'abbaye. Et donc, nous sommes le 17 juillet 1791. Ce domaine, ce lot est mis en vente et c'est donc Joseph Perret qui en fait l'acquisition et donc avec un prix acquisition qui est à peu près celui qui était évalué. Il achète en même temps pour un prix plus important la métairie de Bosgueral qui était vraiment la ferme, la plus grosse ferme qui était juste au-dessus de l'abbaye. Je ne sais pas si vous connaissez certainement. Et donc Joseph Perret fait l'acquisition de l'abbaye. Il va la conserver jusqu'à son décès en 1825, date à laquelle il fait en effet, Thierry Leroy l'a mentionné, il fait un legs. Alors un legs considérable, puisqu'il lègue un patrimoine conséquent à la municipalité de Saint-Antonin, à condition pour elle... qu'elle ouvre une école religieuse qui serait sous l'égide des frères de la doctrine chrétienne. Voilà. Alors là, on est en 1825. L'état de l'abbaye et de l'église ne nous est pas connu à cette époque. On peut supposer qu'elle était encore en bon état parce que Joseph Perret donc, était quelqu'un qui était fortuné, qui se faisait appeler le châtelain de Beaulieu. Donc, mais nous n'avons pas de documents ou d'état de lieu de l'Église à cette époque. Pendant 15 ans, le legs n'est pas tellement mis en pratique puisque l'usufruitière, la veuve, continue à occuper les lieux. Et rien ne se passe jusqu'à son décès en 1840. Et là, ben, la commune de Saint-Antonin doit prendre une décision. Et la décision est faite rapidement d'accepter le legs. Et donc, puisque la municipalité accepte le legs, il faut fonder l'école. Et l'école est fondée presque en précipitation au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie. Voilà. Donc c'est le. Voilà. Donc on est peut-être dans les locaux. C'était ces locaux-là. Donc d'accord. Voilà. Donc on est l'école Perret est créée. Et là on est en 1841. L'intérêt maintenant devient évident à Saint-Antonin parce que le vieux curé Joanny et son vicaire général demandent un agrandissement des capacités pour les paroissiens. Alors il y a un premier projet qui était d'agrandir l'église, l'ancienne église paroissiale, qui était à l'époque plus petite. Et finalement, ce projet ne se fait pas. Et la solution évidente, eh ben, ce serait de transporter, donc la translation, c'est-à-dire de déconstruire l'église de l'abbaye pour la transporter à Saint-Antonin. Alors en 1842, tout s'accélère à une vitesse incroyable. À l'été, la municipalité, sur la base d'un devis d'un architecte de Toulouse, entérine le fait que c'est tout à fait faisable. Donc voilà, la municipalité au mois d'août, sur le document, une délibération qui se trouve dans le registre des délibérations donc aux archives municipales, entérine le fait que c'est un projet viable et qu'il faut donc, en effet, s'atteler à la translation de l'abbaye. La translation de l'église.
Donc l'arrivée en fait d'un personnage qui va vraiment donner tout son appui à la municipalité de Saint-Antonin, donc c'est Eugène Viollet-le-Duc, qui arrive en fait par l'intermédiaire d'un ami à lui, qui est Léon de Malville, député du Tarn-et-Garonne. Et donc en fait il le fait venir au départ, Léon de Malville, en septembre 1842, pour la maison romane, parce qu'on est aussi dans cette période-là en pleine réflexion sur la restauration de la maison romane de Saint-Antonin. Et donc ces deux personnages viennent au départ pour ce projet. Et Léon de Malville, qui est aussi partisan dès le début qui est aussi un appui du projet de translation auprès de la municipalité, va amener Viollet-le-Duc à l'abbaye de Beaulieu. Et donc Viollet-le-Duc, il est assez réticent au projet avant d'arriver sur les lieux, parce qu'évidemment, en tant qu'architecte des monuments historiques, il est plus pour la conservation du monument sur place. Mais alors il fait tout un rapport qu'il rendra public en novembre, où en fait il va d'abord partir du constat en fait que la petite ville de Saint-Antonin est riche, catholique, qu'elle a besoin d'une église, et d'autre part que l'abbaye est dans un coin reculé, un peu laissé à l'abandon. Et donc, ça lui paraît évident que pour la conservation du monument, c'est son principal argument que la translation doit se faire. Alors, pour lui, le projet, alors il en parle d'une manière le projet est assez simple pour lui. Il en parle, je vous cite donc un morceau de son rapport. Il dit « La chose est faisable. La petite église de Beaulieu est dénuée d'ornements, de meneaux, et de moulures, toutes choses difficiles à déposer et à transporter. Ce sont des éperons, des murs lisses, sans arc-boutant, des fenêtres taillées en buseau, sans meneaux ni colonnettes, des voûtes en pierre bien équarries, mais déjà disjointes par l'humidité qui les traverse depuis longtemps. Tous les matériaux sont bons, en pierre calcaire, ne cubent pas beaucoup et sont taillés régulièrement. La dépose et le transport en seront faciles. » Alors quand même, quand vous êtes tous venus à Beaulieu, son constat paraît un petit peu étonnant quand on voit un petit peu l'ouvrage qu'est l'église. Mais voilà, donc là on est parti donc pour ce projet. Alors en mai 1843, Il est officiellement nommé par la Commission des monuments historiques comme porteur du projet. Il aura des... Alors évidemment, Viollet-le-Duc, il est constamment en tournée. En fait, il vient à peu près une fois par an dans la région. Il s'appuie sur des architectes locaux. Donc en l'occurrence, au départ, ce sera l'architecte Lebrun, qui est architecte du département. Et après, donc à la mort de Lebrun, ce sera l'architecte diocésain Olivier. Donc en 1843, donc il fait un premier, il vient de manière un petit peu plus précise à Beaulieu, il fait des relevés qui sont pour nous assez précieux, parce que c'est des relevés assez détaillés et qui nous révèle un peu peut-être l'état d'origine, l'état médiéval du monument. Donc d'abord ce très beau dessin de la façade occidentale. Où il relève quelque chose qui est une des particularités de l'abbaye, c'est qu'elle est vraiment construite donc en tenant compte de la géologie du terrain. Et donc, déjà dans l'optique de la translation, il écrit là donc en notes. Donc, je pense que vous n'arrivez pas à lire, donc je vais vous le lire. Donc c'est le, en fait, on est donc vraiment sur deux niveaux. En fait, on a le portail occidental qui est en fait beaucoup plus haut que le sol de la nef. Donc lui, il le constate. Il fallait 18 marches pour descendre dans l'église. Dans le cas du transport et de la reconstruction à Saint-Antonin, le seul changement que l'on pourrait se permettre serait l'abaissement de la porte au niveau du sol intérieur. Voilà, donc il y a quand même un petit détail qui commence, un petit détail technique à résoudre. Et alors donc, il fait ensuite ce très beau dessin de donc une vue en perspective depuis le nord, où en fait on voit très bien donc l'état de la couverture. Donc la couverture, elle est démolie quasiment sur la nef, elle est quasiment démolie aux deux tiers. On voit un petit bout de la charpente avec, enfin, on a quasiment l'impression qu'on est en direct en fait, hein, que les tuiles sont en train de tomber, et toutes les voûtes des trois dernières travées de la nef sont complètement végétalisées. Il y a carrément voilà un arbre. Voilà, et après donc on voit sur les autres parties, donc la transepte nord, on voit que partout en 1843 il commence à y avoir des gros problèmes au niveau de la couverture. Voilà, alors après cette très belle vue en perspective de l'intérieur, où là on a plus l'impression qu'il veut nous délivrer un peu l'atmosphère des lieux, mais avec mais avec toujours un attachement précis au détail. Enfin, on connaît l'art de Viollet-le-Duc pour le dessin. Et donc ce beau dessin, on voit, on est sur la dernière travée de la nef, avec ces très belles voûtes d'ogives qui retombent sur des demi-colonnes adossées sur les murs goutteraux. On a une petite vue de la croisée du transept avec la coupole qui retombe donc sur quatre trompes. Là, on en voit deux, les deux roses qui viennent éclairer la croisée du transept, et une vue aussi sur le chœur, et là au fond la petite chapelle du transept sud, avec ce petit moine blanc cistercien là au milieu de la croisée. Voilà, donc on a un peu une idée aussi des proportions de l'église.
Alors voilà, donc là on était à Beaulieu. Et maintenant, je vous laisse deviner où on est. Nous sommes là à la porte du Pré, à Saint-Antonin. Et la place des Tilleuls s'appelait à l'époque la place du Grand Ormeau, qui est représentée ici sur le cadastre napoléonien. Et donc, tout va très vite. La municipalité achète cette parcelle, qui était vigne, terre, jardin. Et là est représentée l'empreinte au sol, où devait être translatée l'église de Beaulieu. Alors, tout avance très vite, et c'est là que commence un peu une intrigue, puisque c'est un parent du maire qui commence les travaux de terrassement, et ce personnage, c'est Auguste Coste. Et comment cela pour Auguste Coste, une passion pour l'abbaye qui finira par son acquisition entière. Donc Auguste Coste terrasse l'ensemble. En 1845, il fait l'acquisition de l'abbaye, à l'exception de l'église, mais il est prévu dans son contrat qu'une fois que l'église sera translatée, il sera propriétaire du sol de l'abbaye. Donc là, on sent qu'il y a déjà un intérêt certain pour le site. En 1848, bon, il y a des aléas plus politiques, puisque c'est la fin de la monarchie de Juillet. Et donc il y a des suspens, le projet est un peu suspendu. Et en 1849, que se passe-t-il, Anaïs, je ne sais plus. 1849, voilà, on change de municipalité tout à fait, et le coût, alors donc il y a encore des retards dans l'exécution de la translation, mais le vrai coup de grâce du projet de translation intervient en 1858, quand la décision est prise d'agrandir l'église paroissiale existante, qui a sa taille monumentale là à côté. Et donc c'est à ce moment-là qu'il semble que le projet ne se fera pas. Alors Auguste Coste veille.
Moi, je vous fais un tout petit retour en arrière. Donc 1849, donc 1848, changement de municipalité. Donc le maire Bromet qui avait soutenu, enfin, qui était un peu le chef de file du projet dès le départ en 1842, maire orléaniste, donc il démissionne. Et donc c'est un autre membre du conseil municipal qui va prendre sa succession, Berry, et qui va nommer une commission d'études vraiment dédiée à Beaulieu. Et donc la commission d'études rend son rapport en 1849. Et là, on connaît le coût réel du projet, puisqu'il a longtemps été un petit peu sous-évalué. Donc le coût réel du projet, c'est 184 739 francs. Et les ressources municipales donc dédiées à ce projet sont de 34 029 80 francs. Ce qui correspond à la vente en 1845 du domaine de Beaulieu, donc sauf l'église, bien évidemment. Voilà. Mais en 1849, Viollet-le-Duc est quand même toujours convaincu de cette idée. Il va dessiner le projet de manière un peu plus détaillée. Donc là, on a un plan où en fait, on retrouve le plan de l'église qu'on connaît. Il ajoute deux chapelles en fait sur la première travée de la nef, deux petites chapelles latérales. Au niveau du transept sud, il ajoute une sacristie parce que là, à Beaulieu, l'aile orientale, en fait, ce qu'on appelle l'aile des moines, en fait, va jusqu'à la sacristie de Beaulieu. Donc en fait, évidemment, on ne pouvait pas non plus tout casser, donc en fait on s'arrêtait vraiment au niveau du transept. Voilà, et là je vous ai mis un petit plan au niveau de la croisée parce qu'il va retravailler le clocher, ce qu'on va voir voilà, sur cette vue là. Donc il retravaille un petit peu le clocher de Beaulieu, donc là on est à peu près au niveau de la coupole là, qu'on voyait sur le dessin en perspective. Et donc lui il ajoute en fait c'est à peu près la même élévation qu'on avait à l'origine, mais il va rajouter ces petites Bégéminé là qui retombe sur des petites colonnettes. Voilà, on voit qu'il y a trois cloches. Il ajoute chose qu'on trouve pas forcément actuellement dans la maçonnerie, c'est-à-dire qu'il ajoute un petit escalier de service là pour aller aux cloches. Donc évidemment il a descendu un petit peu le portail occidental. Donc là la sacristie qu'on voit en élévation, les deux chapelles. Et là il reprend un petit peu donc ça c'est la petite tourelle d'escalier qui permet d'accéder au comble. Donc il reprend un petit peu, et le chapeau ressemble, d'ailleurs c'est assez étonnant, il ressemble un petit peu au chapeau, au couronnement qui est fait sur la tour, la toile d'escalier de la maison romane à Saint-Antonin. Donc une élévation depuis le nord, là. Donc on voit comment a été réalisée donc cette petite chapelle. Voilà. Donc il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, au niveau de la croisée du transept, on s'arrête ici en fait. On a une charpente beaucoup plus basse et donc un couvrement beaucoup plus bas. Voilà. Donc là on a un coupe longitudinale. Donc là on est côté cloître. Donc là l'entrée à la petite chapelle latérale. Voilà.
Oui, alors les péripéties et les calculs à Saint-Antonin vont bon train. Auguste Coste ne tarde pas, donc même là on est avant 1867, dès que l'église paroissiale est agrandie, à se porter acquéreur donc de l'église, puisque maintenant il est le seul à pouvoir être intéressé. Mais attention, le préfet s'y oppose et il y a toujours des personnes qui ne veulent pas abandonner l'idée de récupérer l'église pour une utilisation. Alors sur place, puisqu'ils en sont propriétaires, et c'est la société archéologique à l'époque dirigée par le chanoine Potier qui s'intéresse énormément au monument et dit mais non, nous allons nous porter acquéreur. Et ils font une offre d'achat pour 1000 francs du bâtiment. Alors là, bien sûr, le conseil municipal doit considérer cette offre. Et malheureusement, cette offre ne peut pas aboutir parce qu'à l'époque, la société archéologique n'a pas d'existence légale. Il semble que les statuts ne soient pas déposés, ils ne sont pas en mesure de faire cette offre. Donc, l'offre tombe et finalement, en 1272, Auguste Coste est enfin en mesure de racheter l'église, mais à condition expresse de faire de gros travaux. Et ça, pour le bâtiment, c'était une chose très importante, parce que c'est la condition qui peut-être a garanti sa survie. Donc à partir de 1272, Auguste Coste rachète l'église de Beaulieu.
Oui, vers 1867, là, quand il y a donc l'is, ça va. Quand il y a toute cette quand il y a cette histoire donc avec la société archéologique, un certain nombre de clichés vont être pris et qui font aussi donc un état des lieux de l'église à cette époque-là. Donc là, on a un cliché depuis la façade occidentale. Donc on voit. On voit un petit l'état de dégradation et de ruine de la rase là du pignon, des arbres qui ont poussé devant le portail alors cette rampe d'accès qui est antérieure, qui a été faite on connaît la date de la porte de cette porte charretière là qui desservait l'ancien dortoir des convers, qui est percé par Auguste Coste pour un usage agricole. Donc en fait, pour accéder à cette porte charretière, il fait ce système de rampe. Là, on a même deux accès pour accéder à cette porte. Donc une vue intérieure de la nef, toujours dans ces années-là. Donc on voit un petit peu carrément des trous là, dans la voûte. On voit que quand même, donc l'église, la couverture déconstruite depuis 1843. On voit un peu les sévices que cette non-étanchéité est en train de faire subir aux voûtes de l'église. Voilà, et donc là, quelque chose qui moi m'interpelle un petit peu, là, on est au niveau de la croisée du transept, et on a l'impression qu'il y a énormément de lumière qui vient de cette partie-là, et on... Je sais pas, on a peut-être l'impression que vraiment il y a une bonne partie de la voûte qui est tombée. Voilà, donc on voit aussi donc tout l'usage agricole qui est fait donc de cette église. Une vue donc depuis le nord où on voit donc en fait en 1843 pour préciser, ils avaient démonté donc la nef, le transept et le chœur. Ils avaient laissé couvert la croisée du transept. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Ils font les travaux en novembre 1843, donc on se dit peut-être que les intempéries faisant, enfin l'hiver arrivant, ils n'ont pas eu le temps, ou ils ont reculé devant la difficulté de la tâche. Voilà, la chose étant que cette croisée du transept va rester couverte. Et donc là, c'était une vue qui est prise. Alors, on imagine seulement quelques années plus tard, c'était pour faire un petit clin d'œil, puisque c'est une photo de Eugène Truta. On pense qu'elle est prise juste quelques années plus tard, parce qu'en regardant un petit peu de plus près, on a l'impression que la couverture tombe en ruine sur ce pan-là. Et donc, voilà, on se dit que c'est un peu plus tardif que la vue précédente. Eugène Truta, juste pour préciser, à Saint-Antonin, vous le connaissez bien, il vient ici. On a plusieurs vues de Truta de Beaulieu. Il vient en voisin, puisqu'il a épousé la fille du propriétaire du château de Cornusson en 1864.
Oui, donc on était revenu. Mais voilà, donc là vous avez les documents qui montrent que la commune accepte de vendre à Auguste Cosse l'église de Beaulieu pour 1000 francs. Donc que j'ai évoqué juste avant que Anaïs vous montre les photos. Et donc la condition en effet, c'est que Auguste Cosse doit faire ses réparations. Vous voyez l'état de l'église, elles étaient urgentes. Et il y a un autre événement qui va acter cette protection. En 1875, où tu en parles un petit peu après, non, qui est le classement donc du site, donc et qui impose donc à Coste, bien sûr, un devoir de conservation.
Donc Auguste Coste, quand il rachète donc l'église, il s'engage auprès de la commune à refaire la toiture. Donc là, une photo de 20 ans après, donc on voit qu'il a bien fait les travaux. Alors on voit un petit peu dans le fond que la tour de croisée, on a l'impression en fait qu'il fait vraiment des travaux un peu d'urgence. Donc il refait donc la couverture là où elle n'existe plus. Et dans le fond, on voit que en fait c'est à ce moment-là aussi que la tour de croisée est arasée, c'est-à-dire qu'on enlève toute la partie clocher qui certainement, la couverture est tombée, l'ensemble menace ruine. Et donc, on fait vraiment des travaux d'urgence et de sécurisation. Même époque, une vue de l'intérieur, qui sert toujours un usage viticole, là, cette époque-là de l'église. Alors un dessin encore quelques années plus tard, donc début 20e, où on le voit que toujours la tour de croisée est découverte. Encore une vue de début 20e, toujours la tour de croisée découverte. Alors cette tour de croisée sera, enfin donc l'église est classé au titre des monuments historiques à partir de 1875. Donc à partir de ce moment-là, donc évidemment les monuments historiques vont un petit peu plus s'occuper de ce monument, et la couverture sera refaite en 1924 par un architecte en chef qui s'appelait Hulot et qui refait donc la couverture qu'on connaît actuellement, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc une couverture beaucoup plus basse et couverte en tuiles canal. Alors on fait un bond dans le temps, ce qui va me permettre de passer la parole à Benoît Grécourt. Donc en 1959, l'abbaye est rachetée par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache, qui sont donc des collectionneurs d'art contemporain. Et donc voilà quelques photos, l'état dans lequel ils vont trouver l'abbatiale à ce moment-là. On voit qu'il y a quand même eu avant cette période, il y a eu des travaux. Donc on parlait de 1924, la couverture de la tour de croisée, et il y a aussi eu beaucoup de consolidation des voûtes, et donc notamment en 1932, là, la pose de ces tyrans. Et après, donc, bon, les voûtes, elles sont restées quand même découvertes entre 80 ans pour la tour de croisée, une quarantaine d'années pour les autres couvertures. Donc elles ont vraiment fait beaucoup de dégâts sur les voûtes. Donc il va y avoir beaucoup de campagnes de restauration de ces voûtes, voilà, jusque dans les années 80. Et voilà, une petite photo de 1966. Donc Pierre Brache, le nouveau propriétaire, et les premiers travaux qu'ils font quand ils arrivent à l'abbaye, c'est-à-dire ils dégagent en fait toute la rampe là, qui a été faite au milieu du 19e, ils font dégager toute cette partie-là, le portail occidental. Leur objectif est d'ouvrir le dortoir des convers qui sera une salle d'exposition qu'ils ouvrent en 1970. Donc ils vont faire les premiers travaux, ils sont quand même assez pressés, on le ressent un petit peu, et donc ils font les premiers travaux eux-mêmes, puis après évidemment l'État prendra aussi beaucoup de travaux en charge. Et là, juste le petit détail sur la toile d'escalier, comment elle est couverte aujourd'hui, et voilà, pour faire un parallèle avec ce qu'avait proposé Viollet-le-Duc. Voilà, donc je passe la parole à Benoît Grécourt.